RFI, 4h30 à Paris et à Kinshasa, 3h30 en temps universel.
Nemo en piste.
Et à la une, ces moments très difficiles vécus ces derniers jours. Manque d'eau potable, pillage, routes coupées et l'inquiétude des habitants de Walikale Centre qui persiste. Le M23 a pris le contrôle de leur localité la semaine dernière avant d'annoncer son départ. Mais des combattants seraient encore en ville. Témoignage dans un instant. Contexte toujours donc tendu dans l'est de la RDC alors que démarrent aujourd'hui des consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Les camps Katumbi et Fayulu notamment y sont opposés. Les discussions s'ouvrent avec la première ministre et la majorité au pouvoir. Un an après l'élection de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal, on tire le bilan de ce début de mandat. Des analystes évoquent une certaine lenteur dans les prises de décision du gouvernement et une marge de manœuvre extrêmement limitée. En cause, une dette à près de 100% du PIB. Et puis les sports, la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On revient sur la victoire du Gabon face au Kenya 2-1. 8 matchs au programme aujourd'hui, on vous les présente en fin de journal. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo et notamment à Walikale Centre, cette localité de la province du Nord-Kivu dont le groupe armé M23 avait pris la semaine dernière le contrôle. Samedi, les rebelles soutenus par le Rwanda avaient finalement annoncé leur retrait, mais des combattants étaient toujours en ville, au moins jusqu'à hier, selon des habitants joints par RFI. Je vous propose d'écouter ce matin l'un d'entre eux. Il évoque des moments très compliqués ces derniers jours.
Présentement, nous vivons des conditions très compliquées, vu l'afflux des gens, l'afflux de réfugiés qui viennent de partout et les autres qui sont réfugiés dans des forêts. Nous sommes séparés de nos familles. Lorsqu'il y a eu des bandades, il y a des familles qui ont perdu les enfants, il y a des enfants qui se sont vus seuls, sans parents. C'est ça la situation que nous traversons. Mais sur les places sanitaires, nous avons du mal à accéder à l'eau potable. C'est trop alarmant. Les routes sont dévastés, les maisons sont pillées, les boutiques ont été pillées partout. Les populations vivent des moments très très difficiles ici à Walikale. Il y a la terreur qui s'installe chaque jour. Nous avons appris également que les rebelles ont signé un communiqué disant qu'ils devaient se retirer, mais nous ne voyons pas vraiment ce signal, nous ne voyons pas vraiment des signaux de retrait. Vraiment, nous vivons des moments très très compliqués dans la cité de Walikale.
Cet habitant de Walikale Centre qui a pu joindre Guillaume Thibault. J'ajoute que Michel Motomouima, un député membre de la majorité, a saisi ce week-end la chambre basse du Parlement pour dépêcher sur place une mission humanitaire d'urgence. Lui estime à environ 20 000 ménages qui ont dû fuir sans aucune assistance humanitaire apportée. Vous l'entendrez dans nos prochaines éditions. Ce matin, on vous parle également des conséquences économiques de cette situation dans l'est de la RDC. Après la publication d'une tribune signée par plusieurs membres du réseau Makutano, le premier réseau d'affaires d'Afrique centrale, une grande partie des ressources du pays s'envolent, disent-ils. Le secteur financier est particulièrement touché, alors que les provinces du Nord et du Sud Kivu représentent à elles seules environ 50% de la microfinance du pays. Pendant ce temps-là, sur le plan politique, c'est ce lundi que débutent les consultations voulues par le président Félix Tshisekedi en vue de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Objectif des autorités, disposer d'une équipe pour faire notamment face aux défis sécuritaires. Pendant 2 semaines, majorité, leaders d'opinion, société civile, jeunesse, anciens chefs de corps et membres de l'opposition seront consultés. Mais le projet est loin de faire l'unanimité. Les principaux partis d'opposition prévoient de le boycotter et ont tendance à donner la priorité aux consultations menées depuis quelques semaines par les églises catholiques et protestantes. RFI Kinshasa, Pascal Moulégois.
Les partis de l'opposant Moïse Katumbi est farouchement opposé à ces consultations. Hervé Diakiesse est son porte-parole.
Vous n'avez pas encore créé l'Union nationale et vous commencez déjà par mettre en place un gouvernement dit d'Union nationale. C'est une perte de temps. Nous nous inscrivons dans les cadres de consultations menées par les évêques.
Rodrigue Ramazani, secrétaire général du parti Envol des Délices Sanga, va dans le même sens.
Le pouvoir Tshisekedi doit ravaler son orgueil et placer l'intérêt du peuple au-dessus de calculs politiciens en adhérant à cette démarche portée par le père de l'Église. Seule voie crédible de restaurer la paix et la cohésion nationale.
Prince Epengue, le porte-parole de la coalition Lamuka de Martin Fayulu, évoque des consultations inopportunes et déplacées.
Cette n'est ni la voie, ni la solution, ni les cadres. Félix Tshisekedi a tapé à côté. La situation est dramatique. Le Congo est au bord du précipice. Est-ce que les consultations en débauchant certains opposants aux esprits faibles va résoudre cette crise?
Et pour Franklin Tshamala, secrétaire général du parti LGD de Matata Ponyo,
nous sommes par contre favorables aux initiatives qui vont dans le sens de favoriser la tenue du dialogue pour un consensus national, envie d'aborder les causes profondes qui nous plongent dans les conflits à l'est de notre pays notamment, tels que portés par les pères spirituels de la CINCO et de l'ECC.
Pour ces premiers jours, les consultations s'ouvrent avec la première ministre et la majorité au pouvoir. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI.
Au Soudan, après des avancées significatives de l'armée ces derniers jours, notamment à Khartoum, reprise du palais présidentiel, de la Banque nationale ou encore du centre des services de renseignement, les paramilitaires ont répliqué à Omdurman, ville située de l'autre côté du fleuve, face à la capitale. Des bombardements ce dimanche ont fait, selon une source médicale, 3 morts, dont 2 enfants. 8 autres personnes ont été blessées, indique cette même source. Voilà bientôt 2 ans que la guerre fait rage entre les hommes des généraux Al-Burhan et Metti. Au Kenya, une attaque des Chebabs dans un camp de réservistes de la police, situé non loin de la frontière. Les combattants islamistes ont mené une offensive tôt dans la matinée de dimanche avec des armes diverses, fait savoir le porte-parole de la police. Bilan, 6 morts parmi les policiers, 4 autres blessés ont été transportés à l'hôpital. 2 membres des Chebabs ont également été tués dans l'opération et 1 autre grièvement blessé. C'était il y a 1 an, jour pour jour, l'histoire de la politique sénégalaise basculée ce 24 mars 2024, puisque pour la première fois, un candidat de l'opposition s'est imposé dès le premier tour. Les électeurs ont accordé leur confiance au projet du PASTEF et de son candidat, Bassirou Diomaye Faye, ainsi devenu président, grâce à 54% des suffrages exprimés contre 35% pour Amadou Ba, le candidat du pouvoir sortant. Et avec cette victoire historique, la promesse d'une rupture systémique, celle de construire un Sénégal nouveau, après 12 ans de Macky Sall à la tête du pays. Mais alors, 1 an après, quel bilan tirer de ce début de mandat? Élément de réponse à Dakar avec Léa Lisa Vesteroff.
Élue avec la promesse de lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics, la nouvelle équipe au pouvoir a très vite lancé une série d'audits. Même si certains, comme ceux sur les contrats miniers et pétroliers, tardent à donner des résultats, l'audit des finances publiques sur les 5 dernières années représente un marqueur de la bonne gouvernance et un symbole de la transparence revendiquée par les nouvelles autorités. Dans la même veine, 2 institutions jugées trop budgétivores ont également été supprimées. Des assises de la justice avec la société civile ont été organisées dans une démarche qui se veut participative. Mais 1 an après être arrivé au pouvoir, les analystes pointent aussi une certaine lenteur dans les prises de décision du gouvernement. Les recommandations des assises de la justice, par exemple, n'ont pas encore été appliquées. Après 12 mois au pouvoir, le duo Diomaye Sonko fait donc face à des critiques d'impuissance, face à des comptes publics dégradés, hérités de l'administration précédente. Avec une dette qui s'élève à près de 100% du PIB, les nouvelles autorités disposent pour l'heure d'une marge de manœuvre extrêmement limitée pour imprimer la rupture promise lors de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Léa Lisa Vesteroff, Dakar, RFI.
Et sur cette année au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, on va encore plus loin ce matin avec notre invité Ayib Dafé, secrétaire général du PASTEF au pouvoir, également député et chef du groupe parlementaire. Il sera au micro de Christophe Boisbouvier, entretien à retrouver en intégralité aux alentours de 5h45 et 6h45. Heure de Paris. Ce lundi 24 mars, c'est également la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Sachez que l'Organisation mondiale de la santé entend éradiquer cette maladie d'ici 2030. Et justement, le continent africain a enregistré, selon l'OMS, la plus forte baisse mondiale des décès dus à la tuberculose depuis 10 ans. Et près de 2 500 000 cas diagnostiqués sur la dernière décennie. De quoi réjouir Jean-Louis Abena, conseiller tuberculose auprès de la région Afrique de l'OMS.
C'est la hausse du nombre de cas que nous avons pu identifier et que nous pouvons guérir. Nous avons un taux de guérison de 88%. C'est une grande avancée due aussi à la mise en place d'outils de diagnostic qui sont plus sensibles, des outils moléculaires. Donc, c'est un appel à plus de solidarité pour pouvoir lever les finances internes, pour pouvoir acheter ces intrants qui sont décisifs pour la lutte contre la tuberculose. Nous avons une réduction de près de 50% de la tuberculose en Afrique du Sud. Nous avons aussi le cas des Eswatini qui ont fait des progrès remarquables. Mais il y a des pays qui sont un peu inquiétants. Il y a le Gabon qui a un taux d'infection parmi les plus élevés d'Afrique et la mortalité ne baisse pas. Il y a la République du Congo qui nécessite qu'on s'y penche un peu plus parce que toute l'Afrique devrait en 2030 être libre du fardeau de tuberculose comme étant un problème de santé publique. L'objectif est ambitieux, mais on ne peut pas baisser l'objectif et il faut mettre tous les efforts en place.
Jean-Louis Abena avec Wely Diallo et Volet Santé toujours dans ce journal. On vous en parle beaucoup ce lundi sur RFI. La recherche en génomique qui avance doucement sur le continent africain. Un chiffre d'abord, moins de 2% du génome humain répertorié provient de personnes issues du continent. Ce qui représente un gap profond dans les connaissances scientifiques. L'un des bons élèves en la matière, c'est l'Afrique du Sud, qui fait office de moteur. À Johannesburg, par exemple, à l'université de Wits, parvient à se doter d'équipements de séquençage à la pointe. Alors, pour mieux comprendre ce processus qui permet de lire l'ADN, comprendre les mutations des gènes et prévenir certaines maladies en fonction d'un groupe ou d'une population précise, Valentin Hugues a poussé la porte de l'Institut de biosciences Sydney Brenner de l'université. Reportage.
Tout commence avec quelques gouttes de sang conservées à moins 80 degrés dans un grand congélateur.
Je travaille sur la génétique de la population noire sud-africaine pour voir ce qui peut expliquer une réaction différente au traitement contre l'hypertension par rapport aux populations européennes ou asiatiques.
Pour répondre à ce genre de questions, il faut séquencer les gènes pour les lire dans le détail et les comparer à un gène de référence. Mekouda Nyamouba, doctorant à l'université de Wits, doit d'abord extraire l'ADN.
Ici, nous avons une machine automatisée très sophistiquée. On écrase les cellules et des billes magnétiques attirent l'ADN. C'est une technologie très moderne. On peut traiter plus d'échantillons, on gagne beaucoup de temps.
Une fois l'ADN extrait, il faut préparer le séquençage, amplification de l'ADN, récolte des données, configuration des machines, un processus d'environ une semaine.
Voilà mon séquençage, chaque personne a un identifiant unique. Là, c'est une personne, ici une autre. Avec le séquençage, nous pouvons trouver la cause profonde du problème que nous examinons. En d'autres termes, une fois qu'on a la cause, on peut dire si une personne a cette mutation, elle sera plus susceptible d'être malade et donc faire de la prévention.
C'est aussi une pratique coûteuse. Plusieurs millions d'euros sont nécessaires pour faire fonctionner un laboratoire comme celui de Wits. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Et notez que le dossier de notre journal de 7h30 heure de Paris est également consacré à la recherche génomique en Afrique. On en parle également dans le reportage du jour, c'est dans quelques instants sur RFI. Allez, du sport et du football pour refermer ce journal et les premiers résultats de la 6e des 10 journées d'éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Match nul très prolifique entre Eswatini et Maurice ce dimanche, 3 buts partout. Alors que le Gabon a remis la pression sur les champions d'Afrique ivoiriens en prenant provisoirement la tête du groupe F, les Panthers se sont imposés 2-1 au Kenya grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Les Gabonais qui attendent désormais la sortie des éléphants ce soir à Abidjan face à la Gambie. Le sélectionneur des Panthers, Thierry Mouyouma, se satisfait du carton plein réalisé par ses joueurs lors de cette trêve de mars.
We wanted to win. And then we said if you cannot win,
nous voulions gagner, ou alors au moins ramener un point si on ne pouvait pas décrocher la victoire. Heureusement pour nous, on l'a emporté. Donc nous sommes contents car les qualifications pour la Coupe du Monde sont difficiles. Et puis depuis que nous avons commencé, c'était la première fois que l'on jouait dans un stade plein parce que, comme vous le savez, beaucoup d'équipes du groupe ne peuvent pas disputer leurs matchs à domicile. Cette fois, le stade était vraiment bien rempli et nous avons apprécié cela. Je tiens d'ailleurs à remercier les supporters kényans qui étaient derrière leur équipe tout en nous respectant beaucoup. Aujourd'hui, c'est vraiment une victoire importante pour nous.
Thierry Mouyouma, le sélectionneur du Gabon, et ce lundi, 8 nouvelles rencontres au programme. Dès 13h, temps universel, Namibie, Guinée équatoriale. 3 matchs ensuite à 16h, TU, notamment Centrafrique, Mali, Guinée, Bissau, Burkina Faso. Côte d'Ivoire, Gambie, je vous le disais, ce sera à 19h, TU, tout comme Madagascar, Ghana. Enfin, Éthiopie, Djibouti et Tunisie, Malawi. Coup d'envoi à 21h, temps universel. Il est 4h44 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
À suivre, le dossier Afrique Éco au Gabon, au cœur de la salle de contrôle du train transnational en cours de modernisation. Nous sommes à Libreville. On s'intéresse ensuite à la flambée des prix du bismuth, ce métal utile dans l'industrie de la peinture et dans l'électronique. Plus 500% en un mois, alors que plus de 80% de la production mondiale est issue de Chine. C'est lundi, vous retrouvez le journal des territoires français de l'océan Indien dans une dizaine de minutes, mais tout de suite, le reportage du jour. En Afrique du Sud, je vous le disais, à l'occasion d'une série de reportages consacrés aux recherches en génomique humaine sur le continent, alors que ce mois-ci à Durban s'est tenu un sommet de l'organisation du génome humain, une première en Afrique. C'est l'occasion de mettre en lumière le manque de données existantes autour de la diversité du patrimoine génétique des peuples du continent, puisque jusqu'ici, la plupart des recherches ont été faites en Europe ou aux États-Unis. Claire Bargelès.
Nous tous, humains, formons une seule espèce et partageons à plus de 99,9% le même génome. Mais les quelques variations restantes, qui ont eu lieu au cours des millénaires, peuvent avoir une grande influence sur notre santé. Et comme les indices des découvertes scientifiques indiquent que les premiers hommes sont originaires d'Afrique et que seule une partie d'entre eux a ensuite peuplé le reste du monde, les gènes des différentes populations restées sur le continent renferment encore beaucoup de secrets pour l'ensemble de l'humanité. Selon la pédiatre et présidente de la Human Genome Organization, Ada Amosh, on ignore encore presque tout de leur variété.
La diversité génomique à l'intérieur de l'Afrique n'est pas du même ordre de grandeur que pour le reste du monde. En termes de groupes ethniques, de clans, etc., il y a beaucoup plus de diversité sur ce continent que partout ailleurs. On aurait énormément à apprendre si on séquençait davantage les gènes des populations africaines.
Et pourtant, ces variations ne sont quasiment pas analysées, avec moins de 2% des génomes séquencés mondialement appartenant à des populations africaines. Après des études en Ouganda, Christopher Kintu travaille désormais sur ces questions à l'université Queen Mary de Londres.
Ces études ont été historiquement réalisées sur des populations d'origines européennes et ce n'est pas surprenant, car cela demande beaucoup de temps, d'argent et de ressources que l'on n'a pas forcément à disposition en Afrique. Donc cela signifie qu'il faut qu'on en fasse plus en tant que scientifique.
Même sur le continent, les recherches sont inégales, avec beaucoup de travaux effectués en Afrique du Sud. Dans des pays comme la RDC, les études sont balbutiantes, regrette Aimé Lumaka, professeur de génétique à l'université de Kinshasa.
En RDC, c'est un pays où on a un grand potentiel génétique, mais où on a très peu de main-d'œuvre. Pour le moment, on n'a qu'un seul centre de génétique qui est basé à l'université de Kinshasa. Et le personnel qu'il y a dans le centre de génétique n'est pas encore suffisant pour ne fût-ce que répondre aux besoins dans la ville de Kinshasa, malheureusement.
Les séquençages effectués par exemple aux États-Unis ou au Royaume-Uni contiennent bien des données issues des diasporas africaines, mais elles ne sont pas représentatives de l'ensemble du continent et des effets de l'environnement. Claire Bargelès, de retour de Durban, RFI.
Un reportage et série à retrouver dès maintenant sur l'application RFI Pure Radio.
RFI, toute l'actualité, Nemo en piste.
Et les principaux titres de ce lundi 24 mars 2025. C'est aujourd'hui le début des pourparlers sur un éventuel cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. La discussion sous l'égide des États-Unis en Arabie Saoudite. Moscou dit que les discussions n'en sont qu'au début et qu'elles s'annoncent difficiles. Selon le porte-parole de la présidence russe, le sujet principal sera la reprise de l'accord céréalier en mer Noire rompu par la Russie en 2023. Le porte-parole du Kremlin ne fait en revanche pas mention du cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques évoquées par Washington. Cinquième soirée de manifestation en Turquie, des dizaines de milliers de protestataires ont envahi la place de la mairie d'Istanbul. Hier, celui qu'ils soutiennent, le maire, a été placé en détention dans une affaire de corruption qu'il conteste. Le ministère turc de l'Intérieur l'a démis de ses fonctions dans un message transmis par ses avocats. Ekrem İmamoğlu appelle la nation à lutter. Une frappe aérienne israélienne a touché dimanche l'hôpital Nasser de Khan Younes. C'est dans le sud de la bande de Gaza, un responsable du Hamas tué selon l'armée israélienne et le mouvement islamiste armé. Depuis la reprise des opérations militaires israéliennes le 18 mars dernier, au moins 673 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza, un chiffre délivré par les autorités locales. Le dossier Afrique-Éco au Gabon, où l'entreprise Cetrag gère depuis une vingtaine d'années le train reliant Owendo, non loin de Libreville, à Franceville, dans l'est du pays. Le concessionnaire qui a tenté de moderniser la ligne après des années de sous-investissement, modernisation vitale pour le transport des passagers, mais aussi pour le fret. Accord nouveau signé en début d'année avec l'Union européenne et l'Agence française de développement, qui s'élève à 200 millions d'euros. Et l'un des principaux axes d'amélioration, c'est la formation et la digitalisation du suivi du trafic. Le reportage de François Mazet au centre de gestion à Owendo.
Mouvement numéro 1 engagé à 10h18, c'est ça ?
Devant leurs ordinateurs, les régulateurs suivent en temps réel les mouvements des trains sur les tronçons du Transgabonais. Patrick Biogo est en contact avec des conducteurs, des aiguilleurs et des chefs de gare.
J'ai pris les coordonnées des travaux. Il y a des mouvements de travaux qui se sont engagés et qui ont dégagé dans sa gare. Donc là, il me donnait les heures d'engagement et de dégagement des différents mouvements. Je le mets sur le fichier.
Le centre de gestion de la circulation fonctionne en continu. 6 écrans géants permettent de visualiser l'ensemble des 648 km de la ligne. Chef de division, Darrel Herviti supervise le trafic.
Représenté, vous avez les 24 gares, le train jaune là. Symboliquement, ça va représenter que le train, en fait, est supervisé. Contrôler la vitesse du train dans le canton, parce que chaque canton, il y a une vitesse bien définie de parcours. Et également la communication entre le régulateur et le conducteur, donc en temps réel. Donc à chaque moment, quand le train évolue, le régulateur a la possibilité, dans cet aspect-là, de communiquer avec le conducteur, de prendre également la main sur le train. Ça veut dire que s'il estime qu'il y a une violation d'une règle définie, il peut arrêter le train à tout moment.
La gestion de la circulation est un axe de modernisation pour la CETRAG, alors que la compagnie doit batailler contre de multiples retards liés au déraillement récurrent des trains de manganèse, trop lourds pour certains tronçons vieillissants. Abdoulaye Ba est le directeur des investissements de l'entreprise.
On se retrouve avec des traverses qui pourrissent, compte tenu de l'effet climatique aussi et de l'environnement un peu agressif du Gabon. Et donc, ce pourrissement des traverses accumulé avec le vieillissement du rail, avec le tonnage qui est plutôt entre 27 et 28 tonnes à l'essieu au lieu des 25 dimensionnantes, tous ces facteurs-là cumulés occasionnent justement ces effets d'incidentologie constatés depuis 2019.
Les fonds du nouveau programme doivent notamment servir à remplacer 270 km de rails et de traverses. L'État gabonais espère ainsi transporter dans 5 ans 21 millions de tonnes de fret contre environ 11 millions actuellement. François Mazet, de retour de Libreville, RFI.
Le dossier Afrique Éco à retrouver en ligne sur RFI.fr. Le bismuth, au cœur de la chronique des matières premières, ce métal qu'on utilise aussi bien dans l'industrie de la peinture que dans l'électronique, eh bien ses prix ont flambé, tenez-vous bien, plus 500% en un mois. Marie-Pierre Olfan, bonjour.
Bonjour.
Marie-Pierre, pourquoi les prix du bismuth se sont-ils envolés ?
Eh bien, essentiellement parce que le bismuth est soumis à des restrictions chinoises depuis début février. Cela fait partie des réponses prises par la Chine aux sanctions américaines. Le métal qui se caractérise par une couleur jaune quand il est utilisé comme pigment n'est pas interdit à l'exportation, mais fait l'objet de contrôles drastiques sur les destinataires et l'usage qu'il compte en faire. Le temps de mettre en œuvre cette nouvelle réglementation, les exportateurs chinois ont considérablement ralenti leurs exportations. L'impact sur les prix a été immédiat. Avant les restrictions, le métal s'est changé à 12 dollars le kilo. Il se vend autour de 85 dollars aujourd'hui et des offres à 90 commencent à circuler. On parle là des prix européens. Aux États-Unis, où le métal est taxé à 45%, les prix sont encore beaucoup plus élevés.
Et oui, parce que la Chine produit 80% du commerce de bismuth raffiné.
Et oui, il y a peu de bismuth sur Terre et l'essentiel est effectivement raffiné en Chine. Les États-Unis, c'est simple, n'en produisent pas, n'en raffinent pas depuis plus de 10 ans. Leur seule source propre vient du recyclage d'alliage. Ils achètent les 2/3 de leur bismuth en Chine et un peu plus de 20% en Corée du Sud. L'Europe est elle aussi très dépendante vis-à-vis de l'Asie pour son approvisionnement.
Et Marie-Pierre, la Chine ne court-elle pas un risque à fermer les robinets et la demande ne va-t-elle pas baisser ?
Alors elle a déjà baissé car beaucoup d'industriels ne sont pas capables d'absorber cette hausse. Même s'ils utilisent peu de bismuth, quand on approche 100 dollars le kilo, le prix n'est plus anodin. S'il dure trop longtemps, ces prix pourraient finir par pousser à une réorientation géographique des approvisionnements et peut-être provoquer un sursaut d'intérêt pour le stockage de métaux critiques qui, tant qu'ils étaient disponibles et peu chers, ne suscitaient pas grand intérêt.
Merci Marie-Pierre Olfan pour la chronique des matières premières. 4h54 ici à Paris. Dans quelques minutes, vous retrouvez l'actualité internationale et le journal de Martin Guez. Avant cela, c'est le journal des territoires français de l'océan Indien. Pour refermer cette demi-heure, à la une, la fin d'une visite de 4 jours dans la zone du ministre français délégué à la francophonie et aux partenariats internationaux. Bonjour Alex Léveillé.
Madame, monsieur, bonjour. Tani Mohamed Swahili, le ministre délégué à la francophonie et aux partenariats internationaux, a conclu samedi 4 jours de visite dans l'océan Indien et notamment à Madagascar à l'occasion d'un sommet ministériel de la commission de l'océan Indien. Le point avec Raphaël Kahn de Mayotte la première.
Mayotte doit intégrer pleinement la COI. C'est en tout cas l'ambition annoncée par le ministre Tani Mohamed Swahili. Il veut accélérer le processus. Il appelle aussi à améliorer les mécanismes de coopération avec les Comores qui, il le reconnaît, ne fonctionnent pas parfaitement. Son déplacement est en revanche plutôt tourné vers Madagascar. Un accord de coopération a été signé jeudi avec la Grande Île, avec un soutien de 5 millions d'euros pour la santé et la sécurité alimentaire. En plus du sommet des ministres, des rencontres bilatérales ont été organisées avec le secrétaire général de la COI et les ministres de l'agriculture malgache et seychellois. Il a été question de la création d'un espace agricole commun dans la région, mais aussi de la place de Mayotte dans l'institution. Aucune rencontre n'a en revanche été organisée avec les Comores, le principal opposant à l'intégration de Mayotte dans la commission de l'océan Indien.
Raphaël Kahn de Mayotte la première. Samedi, c'était la journée mondiale de l'eau et sur l'île de la Réunion, c'était l'occasion de se poser cette question. Les trombes d'eau qui se sont déversées sur l'île avec le passage du cyclone Garance suffisent-elles à combler le déficit engendré par les longs mois de sécheresse? Andri Racotant-Dravola.
On habite à Saint-Paul déjà, parce qu'il fait très chaud et puis c'est toujours agréable de venir au moulin à eau.
Un choix partagé par des dizaines de personnes en quête de fraîcheur.
C'est la beauté de la Réunion, hein, l'eau, les paysages, la rivière.
Les arbres.
Pourtant, il y a encore 2 mois, ce site n'offrait pas toutes ces opportunités. Faisal Bada, directeur général de l'Office de l'eau.
Décembre 2024, ça a été un mois très sec. Janvier 2025, ça a été un mois très sec. Et donc cette accumulation de manque d'eau s'est ressentie dans les rivières et dans les nappes, avec des niveaux très faibles.
Garance, le 28 février, a en partie rééquilibré la situation.
Ça a permis de relever les niveaux des rivières et les niveaux des nappes à des situations plus normales, même si tous les secteurs de l'île n'ont pas été concernés avec cet apport de pluie, notamment le secteur sud où, par exemple, la rivière Langevin reste aujourd'hui, sur les 15 premiers jours de mars, en situation déficitaire.
Les ressources en eau fragilisées, les Réunionnais prennent conscience de l'importance de leur préservation.
Pas gaspiller de l'eau déjà, ce serait bien.
Dans notre foyer, avoir des gestes simples pour préserver l'eau, surtout l'eau potable.
Parce qu'apparemment, ils coupent l'eau dans les hauts pour que les bas bénéficient de l'eau.
Les réserves d'eau de pluie, ça sert vraiment pour laver la voiture, arroser la cour. Pourquoi ? Parce que c'est devenu rare et c'est devenu cher aussi.
Et puis les éleveurs des hauts de l'ouest de la Réunion doivent encore rouler sur des chemins rendus impraticables après le passage du cyclone Garance. Suzette Emma de Réunion la première.
Les chemins sont en si mauvais état que même les 4x4 ne peuvent pas y circuler. Pour se rendre à sa porcherie, sur la chaloupe Saint-Leu, Guillaume Dallot doit prendre un tracteur.
Vous oubliez faire des kilomètres en plus pour accéder à la porcherie en haut.
Beaucoup de temps perdu et de l'argent, l'éleveur de porc demande de l'aide.
Mamie demande aux collectivités de donner un peu les moyens pour arranger les chemins, les voiries, pour accéder au moins aux parcelles que m'y travaille.
Le président de la Chambre d'agriculture, Olivier Fontaine, a voulu constater les difficultés d'accès de certains bâtiments d'élevage.
Il y a aussi des soucis d'élevage qui ont été détruits ou abîmés par le vent, donc il faut qu'on réagisse très rapidement.
L'urgence pour pouvoir travailler. Stéphane Sarnon, président de la FDSEA, affiche une certaine impatience.
Il y a eu le ministre qui est venu, qui a fait des annonces, et aujourd'hui on est dans l'attente. Nos agriculteurs n'ont plus de trésorerie. Surtout de dire combien ils vont verser pour la Réunion, pour nos agriculteurs.
Un sujet signé Suzette Emma de Réunion la première et c'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Excellente journée à vous Alex Léveillé et c'est ainsi que se referme cette première édition d'Afrique Matin. Merci à Thierry Le Saint à la réalisation et à Vincent Dublange à la rédaction en chef de cette demi-heure. Dans une grosse minute sur RFI, le retour de l'actualité internationale. Il sera 5h à Paris.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp, l'actualité autrement, l'information quand vous voulez. Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Il a été le finaliste de La Nouvelle École, cette série télé qui met en compétition les jeunes rappeurs. Depuis, Do se fait sa place dans le paysage musical français. Il revient avec un nouvel album, Amazing, 10 titres, plus lumineux mais avec toujours la même énergie.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar, du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.